Nathalie Brodin-Becker, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio JM. Vous avez écrit un premier roman, D'or et d'exil, qui est paru aux éditions Au Pluriel, un livre dont nous allons parler ensemble. Alors, je dis un roman, un livre, mais avant tout, commençons par le début. C'est un journal que vous nous offrez, un journal palpitant. On va suivre David Yankel sur de nombreuses années, 1912-1971. Vous allez nous raconter la vie de ce héros. Mais avant d'en dire plus, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi la forme épistolaire pour raconter l'histoire de cet homme extraordinaire et formidable.
Écoutez, l'idée du journal m'a intéressée énormément dans la mesure où je pouvais faire parler des... Au départ, un petit garçon. C'est difficile de faire parler un petit garçon. On peut raconter sa vie, mais l'idée était de le faire parler lui, directement avec ses mots à lui, ses mots d'enfant, ses mots de jeune garçon de 13 ans. Et il m'a semblé donc plus simple d'utiliser, de commencer par un journal pour permettre...
Et pouvoir faire évoluer l'écriture, en fait, au fur et à mesure des années.
Tout à fait.
Et oui,
tout à fait.
Absolument. Et le rythme aussi, prendre un rythme différent, parce qu'avec quand les actions s'enchaînent, évidemment, vous pouvez passer aussi à un rythme différent, faire plus souvent d'écriture dans un journal ou un journal qu'on peut abandonner et expliquer pourquoi. En tout cas, ça apporte beaucoup d'intérêt à la lecture de mon point de vue. Et c'est extrêmement intéressant à lire. Donc, tout va commencer à Odessa pour continuer ensuite à Paris. C'est le destin de cet homme qu'on va suivre. Ce qu'on retient, donc, il va être obligé. David est juif et va être obligé de quitter l'Ukraine, enfin la Russie, assez jeune pour venir s'installer à Paris. Et ce qui m'a quand même accompagné tout au long de votre livre, c'est qu'au-delà de toute son histoire, il y a une nostalgie de ce pays quitté qui habite votre héros. Me suis-je trompée ? Est-ce que vraiment c'est ce que vous vouliez aussi que l'on retienne ?
C'est tout à fait ça, Elsa, puisque Odessa, c'est un peu un îlot de bonheur, si je puis dire, entre guillemets, dans ce vaste empire russe qui est presque médiéval au début du XXe siècle, alors que l'Europe, de son côté, a déjà connu la révolution industrielle. Cet empire russe reste très, très en retard, sauf quelques endroits, et notamment Odessa, qui est un port, donc qui bénéficie d'une ouverture sur le monde, qui bénéficie d'un brassage culturel. C'est d'ailleurs pour ça que des Juifs en quête de calme et de paix se sont réfugiés à Odessa.
Bien sûr, s'ils sont réfugiés.
Qui était une ville donc accueillante et donc multiculturelle. Donc c'est pour ça qu'il a cette nostalgie d'une ville où l'échange est possible, où on peut exister, où on peut avoir des enfants, créer une famille et être heureux.
Avec une ouverture d'esprit qu'il y avait aussi, un mélange qui se faisait à l'époque. Et puis c'est la nostalgie de toute façon de l'enfance et de ce rêve perdu de cette vie avec ses parents aussi.
D'une enfance heureuse, comme nous tous.
Bien sûr.
On est nostalgique toujours des périodes les plus heureuses de notre vie, et particulièrement de l'enfance quand celle-ci a été vraiment heureuse. Et c'est le cas pour David. Il a été vraiment heureux à Odessa.
Absolument.
Il a eu une belle enfance. Comme beaucoup d'enfants rêveraient d'en avoir une peut-être, mais en tout cas une belle enfance.
Heureusement, parce qu'il va être amené à traverser ce terrible, ce sanglant XXe siècle. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout avec le recul. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point le XXe siècle a été terrible. D'autant qu'il traverse des pays qui sont marqués par tout cela. Même si 1912-1971, assez peu de place quand même dans votre livre pour ce qu'on appelle la Révolution russe. Ce n'est pas tellement l'objet. Vous en faites quand même un roman intimiste.
Oui, parce que le canevas historique qui est derrière, c'est un prétexte. L'idée, c'est plutôt de raconter comment David va pouvoir s'en sortir, va rester en quête de ce bonheur permanent, en quête de maîtrise de sa vie de façon permanente, malgré tous ces événements qui sont là en toile de fond pour l'empêcher d'avancer. Et donc c'est aussi ce socle d'une enfance heureuse et de ce bonheur qui va sans arrêt rechercher.
Le porter, et qui le porte aussi. Oui, qui le porte.
Et qui le porte aussi, voilà, tout au long de cette vie difficile et entravée par des événements dramatiques. Voilà, l'idée c'est de ce roman, c'est de montrer finalement un héros qui malgré tout est en quête de bonheur et qui s'emploie à le recréer en permanence.
Alors c'est dans ce livre aussi, ce qui est très fort, c'est cet amour, l'amour qu'il partage avec Anastasia, en tout cas l'amour que lui a pour Anastasia. Dans le partage, c'est peut-être on le voit pas la même chose de la part d'Anastasia, mais lui vraiment cet amour a été le centre de sa vie. Il y a une volonté de se vouer à cette femme qui est absolument extraordinaire, même si on a un peu de mal. Moi j'ai eu quand même un peu de mal à comprendre son comportement vis-à-vis de ces jumeaux qui vont quitter le foyer.
Oui, alors Anastasia, c'est donc l'amour de sa vie. Et c'est plus que l'amour de sa vie parce que c'est aussi le chaînon manquant, si je puis dire. Mmh. C'est ce qu'il raccroche à son passé, ce qui fait le lien avec son passé, avec cette vie heureuse qu'il ne cesse de recréer. Et pour recréer un bonheur, il faut quand même avoir un lien avec son passé. On ne peut pas être en rupture. Et Anastasia, c'est aussi un élément, une brique, la brique importante qui lui permet de recréer son bonheur. Alors les jumeaux, voilà, effectivement, il laisse tomber à un moment donné, plus ou moins, ses enfants qu'il adore et qu'il sacrifie un peu.
Il les laisse vraiment tomber. Enfin, je veux dire, il ne fait rien lorsqu'ils vont quitter le foyer suite à une mésentente avec la mère. Il ne fait rien, en fait, pour leur dire simplement « Gardez le lien, je pense à vous, je suis là, même si... » Enfin, je veux dire, on a quand même du mal à comprendre. Ou alors, c'est cette dévotion à cette femme, à son passé, à cet amour qui peut tout expliquer.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est de la dévotion dans le sens presque du sacrifice à Dieu. Ah oui. À un dieu vivant, et il y a effectivement cela, c'est tout à fait juste, et il y a aussi le fait que David est fatigué. Donc c'est ces deux éléments conjugués qui fait que ça aboutit à une espèce d'abandon de ses enfants. Il se sent coupable en plus, hein, c'est pas quelque chose qu'il vit bien, mais la dévotion à sa femme, parce que c'est sa femme qui les abandonne, c'est elle qui...
Bien sûr, c'est sa faute si les jumeaux s'en vont, bien sûr.
Voilà, c'est elle qui prend la décision. Donc tout doit être tourné sur elle et tout doit lui être sacrifié, quitte à même sacrifier ses enfants. À ça s'ajoute une certaine fatigue qui commence à s'installer chez David, qui passe donc toutes ces années à construire, à essayer de reconstruire,
absolument,
quitte à sacrifier. Donc pour lui, la priorité c'est sa femme. Anastasia.
On le comprend, et c'est jusqu'au bout, et c'est très beau dans cette histoire-là, et à la fois on a vraiment l'impression que pour continuer à vivre, à survivre, à passer toutes ces épreuves, il n'a pas d'autre choix aussi que de faire une certaine dichotomie dans ses sentiments pour pouvoir survivre.
Voilà, exactement, pour pouvoir survivre, et en même temps, il est fatigué. C'est-à-dire que je pense que alors, on ne va pas jusqu'au bout, bien évidemment,
bien
mais quand on a des enfants, il y a un moment donné où il y a une petite période de lassitude, parce qu'on se bat pour eux, on se bat pour beaucoup de choses, et tous, quand on est parents, on a eu un moment donné où, voilà...
On s'est dit quand même avec tout ce que j'ai fait pour eux, absolument. Je voulais vous poser une question, Nathalie Brodin-Becker, dans ce livre d'or et d'exil, on se demande quelle est la part du roman et quelle est la part de vérité. Est-ce qui vous a inspiré ces personnages? D'où vous est venue cette idée?
Alors, la part de vérité, il y en a très peu, dans le sens où c'est un roman,
bien sûr.
Complet, puisque bon, je suis quand même inspirée de la vie de mon grand-père, mais qui est mort extrêmement jeune, il n'avait pas 40 ans. Bon, c'était un personnage mythique, un peu comme toutes ces personnes qui disparaissent très jeunes, il y a une espèce d'aura qui se crée autour d'eux et qui stimule notre imagination. À partir de là, j'ai eu envie de prolonger sa vie et de chausser un petit peu sa vie, de chausser...
De reprendre les rênes, de faire une suite.
De faire une suite. Et donc, c'est plutôt... s'il y a une vérité dans le personnage de David, ça serait plutôt la mienne. Bon, j'ai pas du tout abandonné mes enfants, je vais en faire tout de suite, je les adore. Mais c'est l'idée que, malgré des événements qui peuvent être difficiles, cette idée de rester libre et de maîtriser les choses et d'essayer de se battre pour essayer de paramétrer son présent et son avenir à ses propres désirs, à ses propres souhaits, se dire que voilà, malgré tout ce qui peut nous arriver, on peut y arriver.
C'est aussi, quelque part en filigrane, un arrêt sur image sur le destin de l'Ukraine, ce pays, cette région de la Russie qui n'en finit pas d'écrire son histoire.
Tout à fait. On l'a vu encore dernièrement, vous avez raison d'y faire référence. L'Ukraine, c'est vraiment un endroit du monde qui est au carrefour de vents contraires, si je puis dire, entre cette Russie qui reste quand même très très autoritaire, malgré tous les développements qu'on a connus ces dernières années, heureusement, depuis la chute du mur, et l'Europe à côté qui avance.
Absolument.
Qui avance d'un point de vue politique, d'un point de vue démocratique, enfin à tout point de vue, malgré tous les retours en arrière qu'on connaît ces derniers temps, faut pas se cacher non plus des difficultés de certains pays. On a vu la Pologne.
Mais on sent que vous vouliez aussi qu'on pense à l'Ukraine, qu'on s'interroge sur son destin.
L'Ukraine, c'est aussi une région d'histoire,
bien sûr.
Une région riche. Non pas seulement économiquement, puisque ça crée aussi beaucoup d'appétit de la part du voisin russe.
Et oui. Mais ça, ceci ça explique aussi... cela.
Voilà. Mais c'est aussi un pays culturellement très très riche, très très ouvert, notamment la région d'Odessa, où il y a encore que quelques années, la langue française restait quand même à l'honneur.
Un cosmopolitisme, une culture qui existe toujours et qui découvre Odessa aujourd'hui à ce sentiment.
Voilà, et la France, pourquoi la France? Parce que pays des Lumières, pays d'ouverture, des droits de l'homme, etc. Donc c'est pas pour dire voilà la France.
C'est aussi une façon de s'arrêter sur l'Ukraine et de rappeler à chacun son histoire et son destin. Merci beaucoup Nathalie Brodin-Becker. Je rappelle le titre de votre ouvrage D'or et d'exil, paru aux éditions au pluriel. À très bientôt.
Merci Elsa, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.